Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Dans Musique traditionnelle aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec Raphaël Maillet à Montmartre, pour
tout
être
à fait
très précis, dans son petit appartement parisien, plein de guitares, banjo, mandoline, violon, chapeaux.
Oui.
Il y a une collection de chapeaux. Raphaël, vous êtes un musicien, multi-instrumentiste, danseur, musicien classique, on en a déjà parlé dans la dernière émission. Et vous allez commencer cette émission en jouant du banjo 5 cordes, c'est ça?
Oui.
Et vous nous expliquerez juste après l'histoire du morceau et pourquoi.
Ah, très bien.
C'est quand même pas un instrument hyper facile, moi j'ai l'impression.
Ouais, ça fait un bail que j'en avais plus joué, merci.
Alors, chers auditeurs et auditrices, le banjo 5 cordes, c'est plutôt un instrument des États-Unis?
Tout à fait.
Alors, pourquoi 5 cordes? Parce que, bon, nous avons accueilli Olivier Sulpice sur nos ondes, hein, il y a plusieurs mois. Je vous invite à réécouter l'émission, hein, si vous ne l'avez pas eu. Et lui fait plutôt du banjo traditionnel 4 cordes. Alors expliquez-nous un petit peu la différence et quel est le style que vous venez de jouer.
Alors je ne suis pas un spécialiste du banjo, mais j'aime énormément le style qu'on appelle clawhammer. Ça signifie jouer avec les ongles, en fait, cette musique traditionnelle des Appalaches. Donc
les Appalaches, c'est les États-Unis, le nord.
Voilà, c'est une chaîne de montagnes.
De
Est.
C'est Est plutôt, d'accord.
Middle-Est.
Voilà, d'accord.
Enfin, milieu. En tout cas, bon, c'est une chaîne de montagnes très haute et qui était très symbolique pour les colons. Et donc, ils sont vraiment restés beaucoup à cet endroit-là, puisque que ce soit une chaîne de montagnes ou un fleuve, ce sont des... je trouve pas le mot. Des éléments naturels à traverser et qui sont très symboliques. Donc les Appalaches est un endroit où les colons se sont vraiment regroupés et ont permis de créer une musique vraiment très identifiable. Et donc ce banjo est vraiment le symbole de cela. L'idée, c'est que il faut se mettre dans la peau de personnes qui quittent tout en Europe pour aller vivre aux États-Unis.
Et sans savoir ce qu'ils vont y trouver.
Sans savoir ce qu'ils vont y trouver, puisqu'il n'y a pas Internet toujours. Hein.
On prend un bateau, on quitte tout et on ne sait même pas si on pourra revenir chez soi.
Exactement, complètement.
C'était d'un courage qui, moi, me fascine à chaque fois que je lis des livres là-dessus.
Tout à fait. Donc, ils avaient juste quelques cartes postales à la limite, quelques lettres, mais il y avait beaucoup de fantasmes par rapport à tout ça. Donc ils allaient vraiment vers un avenir radieux. Et on parle d'une époque où il s'agissait encore quasiment de planter une pancarte à un endroit pour dire que c'était chez soi.
Oui, c'est vrai.
C'est une mentalité qu'on n'a plus beaucoup.
Et, en tout cas, vous pouvez essayer, mais je ne pense pas que ça va marcher comme ça tout de suite.
Voilà. Donc, évidemment que les Africains ont beaucoup influencé tout cela. Le banjo est d'origine africaine, tout comme la guitare. Mais donc, il va y avoir différentes lutheries qui vont évoluer pour faire naître des banjos plutôt irlandais ou des banjos plutôt old-time ou des banjos plutôt carrément africains. Et la particularité du banjo 5 cordes, c'est qu'il possède cette petite corde aiguë au niveau du pouce. C'est-à-dire qu'il n'est pas accordé comme la plupart des instruments du plus grave au plus aigu. Il y a une première corde qui est très aiguë et les autres cordes après qui vont du plus grave au plus aigu. Donc la première corde, c'est celle-là. Et ensuite, ça fait ça.
En effet, oui, en effet, c'est... On dirait que c'est un peu qu'elle est là, qu'elle s'est trompée de côté.
Voilà, un peu. Et donc, ça, c'est vraiment dans la tradition africaine, d'avoir cette... on appelle ça une chanterelle.
Donc, c'est pas un bourdon, parce qu'un bourdon, ce serait grave. C'est plutôt... La chanterelle, c'est cette corde qui résonne et qu'on peut jouer pour accompagner le morceau, c'est ça ?
C'est ça.
Mais aiguë, cette fois-ci.
Et... voilà, ce banjo se joue donc avec les doigts, sans onglets, contrairement au banjo bluegrass, qui lui aussi possède 5 cordes, lui aussi possède cette petite corde
chanterelle,
mais est joué avec des onglets. Et du coup, ça c'est de la musique bluegrass, qui est déjà une musique qui est arrivée dans les années 1920. Donc on est déjà dans... On est déjà dans une société qui est beaucoup plus évoluée.
Oui, et ces onglets, donc cette espèce d'ongle, donne une couleur un peu plus métallique.
Tout à fait.
Au morceau.
Et la lutherie du banjo n'est pas exactement la même aussi.
Voilà. D'accord. Alors, on a parlé à cet épisode et à l'autre épisode de la musique old time. Alors moi, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de musique old time. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer que signifie ce terme et à quoi il s'applique.
Eh bien, c'est vraiment la musique des colons partis en Amérique. Donc, évidemment que c'est une musique de métissage. C'est une musique de personnes qui se rencontrent et qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. Donc, il va y avoir bien évidemment les Irlandais. Il va y avoir aussi les natifs américains, les Amérindiens. Il va y avoir les Africains.
Et les Français,
voilà. Et tout ça va créer une dynamique. Et au cours du 19e siècle, va créer une véritable identité et une musique qu'on qualifie de musique old time, qui est toujours de la musique à danser, qui est toujours jouée par des personnes dont ça n'est pas la profession, et avec des instruments qui sont transportables. C'est essentiel de se souvenir de cela. Parce que c'est ce qui peut faire les différences entre des musiques qui sont installées dans des territoires où les populations n'ont pas à bouger, ne sont pas nomades, et des musiques de populations nomades, ne vont pas jouer avec les mêmes instruments. Donc le violon est essentiel, le banjo est essentiel.
La voix
évidemment.
Parce que ça chante beaucoup, voilà.
Chante.
Il y a l'accordéon, comment on appelle cet accordéon où on voit... On voit les touches, en fait.
Le mélodéon. Voilà. Alors, le mélodéon, lui, ça va plutôt être chez les Québécois. Il n'y en a pas beaucoup.
D'accord.
C'est l'influence des Français, et notamment du Poitou.
Ah oui, et d'accord. Oui. C'est les Poitevins qui sont...
En France, la majorité des gens qui sont partis du Québec sont de la région du Poitou. Et donc, c'est d'ailleurs très intéressant. Ça me permet de faire une bonne transition. Parce que souvent, et ça va nous permettre de nous amener à la musique classique dont nous voulions parler au début de l'émission, ceux qui jouent la musique classique peuvent être très intéressés par jouer la musique baroque. Donc la musique baroque, c'est la musique du XVIIIe siècle.
C'est vrai.
Or, les premiers musiciens de musique baroque étaient des musiciens de rue, des musiciens traditionnels, populaires, dont ça n'était pas le métier, mais qui donc étaient repérés, on leur demandait de venir jouer dans l'orchestre. Et donc, on a les premières pièces de musique baroque savante sont toujours reliées à la danse traditionnelle.
D'accord.
Ce sont des suites de danse.
Il y a des rondos, exactement. Il y a des rondes, des valses.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Mmh. Et
avec des instruments légèrement différents de ceux de la musique classique, d'ailleurs.
Oui, ben oui, parce que c'était la lutherie de l'époque.
Oui.
Donc, on n'avait pas les mêmes moyens. Donc, on jouait, par exemple, avec des cordes en boyau.
C'est vrai. On avait des, voilà. Les archets des violons étaient un peu différents. Ils étaient plus courts, plus bombés.
Voilà. Parce qu'ils venaient, justement, de cet arc, de cet archet, arc. Mm-hmm. Et c'est par la suite que la lutherie, bien évidemment, a évolué pour créer des nouvelles formes d'archets.
D'accord, c'est très intéressant.
Ah oui, c'est...
passionnant.
C'est vraiment passionnant. Et donc, ces musiciens qui s'intéressent à la musique baroque, pour savoir comment jouer cette musique-là, en fait, ils sont désarmés puisqu'on n'a pas d'enregistrement.
Ah oui. Mmh.
Donc, dans un sens, quand on cultive une forme de tradition orale, si on n'a pas d'enregistrement, on a peut-être plus de chances d'avoir quelque chose de tangible que si on est séparé par des siècles et qu'il y a juste une partition. Comme on l'a vu à l'émission précédente, une partition ne suffit pas à donner le style, ne suffit pas à donner le tempo, ne suffit pas à donner les accents, ne suffit pas à donner tous les coups d'archet.
Le grain aussi, la façon de jouer, les appoggiatures, ce qu'on appelle les appoggiatures, c'est-à-dire les petites notes de chaque
ornementation.
Voilà, les ornementations.
Et donc une partition n'est jamais suffisant. Donc si on est dans une musique strictement de tradition orale, on a plus de chances, évidemment qu'on ne l'est pas, mais on a plus de chances d'être dans un rapport, une sorte de continuité comparativement à ce qui se faisait avant. Mmh. Or, dès l'instant où on met une partition, il y a quelque chose de figé qui se passe, il n'y a plus cette tradition d'individu à individu, et donc on perd forcément quelque chose. On gagne autre chose, on gagne que le morceau ne sera jamais oublié. Oui. Mais on perd ce côté organique de la tradition du morceau. Donc, comment ont fait ces musiciens baroques quand ils se sont posé la question « Comment est-ce qu'on doit jouer ces musiques ?» Eh bien, en fait, ils sont retournés au Québec parce que c'est au Québec où la tradition ne s'est pas arrêtée. Comme les musiciens du Poitou, avant de partir au Québec, jouaient la musique populaire, donc on parle... entre le 18e et le 19e siècle, et bien du coup, quand ils sont arrivés au Québec, ils ont maintenu cette tradition, et donc les musiciens baroques et les musiciens qui veulent savoir la musique traditionnelle québécoise se retrouvent au même endroit à se poser les mêmes questions puisqu'il s'agit de la même période. Or, en France, malheureusement, on n'a pas cela, parce que nous avons été victimes de la guerre, qui nous a fait perdre, on estime, 80% de notre répertoire de tradition orale.
Ah oui, d'accord, hein, à ce point-là.
Oui.
Les musiciens sont morts. Les...
N'oublions pas que les premiers enregistrements, ce sont les années 1920.
Ah, sur les cylindres de cire,
voilà.
C'est ça.
Et les premiers enregistrements de personnes qui se disaient « Oh là là, on est en train de perdre du patrimoine de tradition orale. » Donc c'est très très récent dans l'histoire de la musique. C'est pour ça que quand on parle de musique traditionnelle, ça devient très complexe. Parce que la majorité du répertoire, en fait, est très récent. Et en même temps, on continue toujours à composer. Et vous avez eu des invités qui sont justement... qui ont vraiment des choses très pertinentes à dire dans ce domaine-là, puisqu'ils sont à la fois dans la sauvegarde d'une forme de tradition et en même temps dans la création. Mm-hmm. Donc tout ça est passionnant. Mais pour en revenir au fait que en France, et notamment en Europe, nous avons beaucoup souffert de la guerre, notamment de la première, qui a quand même décimé les populations qui possédaient...
Une population active, surtout, c'est-à-dire une population qui avait une mémoire, qui jouait, qui... c'était vraiment...
Et n'oublions pas que la tradition orale est vraiment très très importante dans les sociétés d'autrefois. Mmh. Aujourd'hui, on a perdu cela, parce qu'on ne jure que par les livres... que par les partitions, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est quelque chose de physique qu'on peut toucher. Mm-hmm. Mais les sociétés avant, la tradition orale était très importante. Mm-hmm. N'oublions pas que même l'Iliade et l'Odyssée, c'était des chansons. Mm-hmm. Et c'est Homère qui l'a mis par écrit, mais à l'origine, ce sont des chansons, c'est joué par L'Ancien Testament, c'est de la tradition orale. C'est après que ça a été mis par écrit. Et aujourd'hui, on ne jure que par les écrits, mais à l'époque, vraiment, il y avait des gens dont c'était le métier de se souvenir des choses.
Oui, les répétiteurs, non ? Je ne sais plus.
Mais... Je ne sais pas le nom.
J'avais vu ça. Est-ce que vous avez un morceau de québécois ?
Ah oui,
qu'on pourrait entendre ? Moi, j'aime beaucoup la musique québécoise. Pour qu'on entende un petit peu ce que ça donne, cette tradition qui a émigré vers le Québec.
Alors attends.
Qui ressemble à la musique irlandaise, qui ressemble à la musique française, mais avec une touche autre.
Oui, c'est ça.
Justement, vous avez 100 ans de musique traditionnelle québécoise.
Ah oui, voilà, une belle compilation.
Oui, je vois que vous avez eu du travail et que vous avez travaillé là-dessus. En tout cas, moi, je suis assez impressionnée parce que vous avez fait de la musique classique, du old-time, de la musique québécoise, de la musique irlandaise, de la musique... Et il m'en manque, je suppose. Vous avez quand même touché à énormément de styles.
J'essaye.
Sachant que chaque style a sa touche propre, hein, c'est-à-dire que moi par exemple je trouve ça assez compliqué de passer de jouer de la musique irlandaise et puis de jouer de la musique auvergnate juste derrière, parce que même si je peux retrouver les notes, le style est, enfin c'est un peu comme changer de langue ou passer de l'espagnol.
C'est exactement comme changer de langue.
Et voilà. Et donc comment, enfin quand avez-vous eu le temps, enfin si vous m'avez dit que si vous jouez tous les jours pendant 24 heures effectivement,
non,
ça laisse du temps.
Quand même pas, hélas.
Mais le temps, l'envie, la découverte de découvrir tout ça, parce que ça fait quand même énormément de richesse en fait à votre répertoire, à votre façon de jouer et.
J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La première, c'est que je joue beaucoup de choses, de styles de musique, mais je ne suis spécialiste en rien.
Bon,
c'est
heureusement,
c'est l'inconvénient.
Vous, quand même, vous pouvez quand même pas tout avoir, je veux dire, ça me rassure.
C'est l'inconvénient.
Très bien.
plus on a de quantité, et moins on a de qualité. Donc évidemment que...
Sachant que Raphaël joue quand même très très bien, hein, chers auditeurs, je crois que vous l'avez... Je préfère mettre une parenthèse là-dessus avant de faire croire à tout le monde que vous ne jouez pas.
Ouais, j'en perds mon coussin.
Il en perd son coussin. Donc, pardon, je vous laisse la parole.
Tout ça pour dire que, par exemple, je vais être capable de jouer une bourrée, je vais être capable d'imiter un style de bourrée. Je crois comprendre certains des aspects fondamentaux. Mais en même temps, le mot qui pose toujours problème, c'est la légitimité.
Ça, je crois que c'est un mot qui pose problème en musique traditionnelle. Enfin, il me semble.
Partout. Partout,
oui,
ça pose
problème.
Vrai. La légitimité, c'est quelque chose que les gens soit s'octroient eux-mêmes, soit donnent, soit... C'est un concept très compliqué. Je ne m'estime pas légitime d'être une référence dans un style donné. Mais je m'estime légitime d'être curieux et d'être boulimique de découvertes, de rencontres et de nouvelles sensations. Donc après, bien évidemment, quand je vais essayer de jouer un style, je vais être forcé de rentrer un petit peu dans la caricature. Et ceux qui se qualifient de puristes, souvent, n'aiment pas trop comment je joue parce que je peux être qualifié de caricatural. Un petit peu comme si j'étais en Amérique et puis que je disais « Oh yeah, I speak very well English » en mettant des gros accents avec un chewing-gum, quoi.
Et pourtant, moi, je trouve que... Enfin, il me semble que quand on apprend quelque chose de nouveau, que ce soit une langue ou autre chose, j'ai l'impression que le passage par la case caricature est comme nécessaire pour... accentuer même une nouvelle danse, hein. C'est-à-dire que si on apprend la salsa, la musique traditionnelle, on va être obligé de pousser jusqu'à la caricature pour qu'ensuite on ait enfin la sensation de dire « Ok, maintenant j'ai compris,
exactement.
Maintenant je peux affiner ce que je viens d'apprendre. »
Je suis tout à fait d'accord. Et je dirais que j'ai même évolué là-dessus, c'est-à-dire que quand j'étais jeune et que vraiment j'essayais de jouer toutes les musiques qui me passaient dans les oreilles.
Oui, je vois.
Un jour, j'arrive à une session de musique irlandaise. C'était à Paris. J'arrive à une session de musique irlandaise et comme je ne connaissais pas les morceaux qui étaient joués, mon réflexe, eh bien, ça a été d'utiliser ce que je savais faire. Et ce que je sais notamment faire, c'est accompagner avec le violon. Mm-hmm. Donc, jouer en fait le rôle d'une guitare, quoi. Par exemple...
Je tiens à préciser à nos auditeurs que déjà, pour savoir faire ça, il faut une certaine technique de l'archer. Hein.
Tout à fait.
C'est pas si simple que ça. Voilà, fin de la parenthèse.
Mais disons que la musique traditionnelle, comme le disait fort bien mon ami... j'estime énormément Gabriel Lenoir, est à l'origine une musique de soliste. C'est-à-dire, on ne joue que la mélodie, et cette mélodie doit rebondir et se suffit à elle-même. Les instruments accompagnateurs sont arrivés après. Mm-hmm. Mais au violon, on peut aussi se laisser inspirer par ces instruments accompagnateurs. Donc, comme je ne connaissais pas la mélodie, je me suis mis à accompagner. Et là, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Écoute, c'est très bien ce que tu fais. » Mais ici, on essaie de reproduire un peu l'esthétique des sessions telles qu'elles sont vécues en Irlande. Et en Irlande, un violoniste, il n'accompagne pas. Un violoniste, il joue la mélodie. Donc, si tu ne sais pas jouer la mélodie,
tu te tais.
Tu ne joues pas. Ou tu l'enregistres et tu vas la bosser chez toi pour revenir la jouer la semaine suivante. Sur le coup, j'ai été vraiment choqué. Parce que je me disais, mais enfin, c'est complètement sectaire, comment hostile et tout ça. Donc, je suis parti un petit peu renfrogné. Et puis, le temps passant, en fait, je suis revenu sur cette sensation. Parce que je me dis que si on n'essaye pas de caricaturer un peu l'idée qu'on se fait de quelque chose, au bout d'un moment, tout se ressemble.
C'est vrai.
Et donc, si on n'accepte pas un minimum... que dans une langue, il puisse y avoir des expressions typiques, si on n'accepte pas qu'il puisse y avoir un folklore, si on n'accepte pas qu'il puisse y avoir l'image du Parisien avec sa casquette, son béret et son litre de vin, si on n'accepte pas qu'on puisse pousser les images jusqu'à cette caricature-là, et ben en fait, au bout d'un moment, tout devient égal.
Lisse.
Tout devient égal et lisse. Et c'est une question qui est finalement très compliquée.
Oui,
parce que tout le monde sait que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Mm-hmm. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que, oui, a priori, il n'y a rien à mettre. Il n'y a pas un style de musique à mettre au-dessus d'un autre. Il n'y a pas une manière de vivre. Que c'est des questions de culture et tout ça. Enfin, c'est des principes philosophiques qui, aujourd'hui, font avancer les mentalités. Mais on a quand même besoin d'avoir ce côté touristique des choses.
C'est vrai. Et puis, c'est une sensation fort agréable, la découverte. Eh bien, on va en rester là pour cet épisode. Oui, je sais. Même les auditeurs, je les entends. Ils sont en train de dire « Ah non, on veut continuer ». Ne vous inquiétez pas. J'invite Raphaël pour la prochaine émission. Vous viendrez ?
Ah oui, avec joie.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.